Chapitre 8. L'entrevue. Le pompeux cortège du cardinal s'était arrêté à l'entrée du camp. Toutes les troupes sous les armes étaient rangées dans le plus bel ordre, et ce fut au bruit du canon et de la musique successive de chaque régiment que la litière traversa une longue haie de cavalerie et d'infanterie, formée depuis la première tente jusqu'à celle du ministre, disposée à quelque distance du quartier royal, et que la pourpre dont elle était couverte faisait reconnaître de loin. Chaque chef de corps obtint un signe ou un mot du cardinal, qui, enfin rendu sous sa tente, congédia sa suite, s'y enferma, attendant l'heure de se présenter chez le roi. Mais, avant lui, chaque personnage de son escorte s'y était porté individuellement, et, sans entrer dans la demeure royale, tous attendaient dans de longues galeries, couvertes de coutils rayés et disposées comme des avenues qui conduisaient chez le prince. Les courtisans s'y rencontraient et se promenaient par groupes, se saluaient et se présentaient la main, selon leurs intérêts ou les seigneurs auxquels ils appartenaient. D'autres chuchotaient longtemps et donnaient des signes d'étonnement, de plaisir ou de mauvaise humeur, qui montrait que quelque chose d'extraordinaire venait de se passer. Un singulier dialogue, entre mille autres, s'éleva dans un coin de la galerie principale. « Puis-je savoir, monsieur l'abbé, pourquoi vous me regardez d'une manière si assurée ?»« Parbleu, monsieur Delaunay, c'est que je suis curieux de voir ce que vous allez faire. Tout le monde abandonne votre cardinal-duc depuis votre voyage en Touraine. Vous n'y pensez pas ? Allez donc causer un moment avec les gens de monsieur ou de la reine. Vous êtes en retard de 10 minutes sur la montre du cardinal de la Valette, qui vient de toucher la main à Rochepot et à tous les gentilshommes du feu comte de Soissons, que je pleurerai toute ma vie. Voilà qui est bien, monsieur de Condy. Je vous entends assez, c'est un appel que vous me faites l'honneur de m'adresser. Oui, monsieur le comte, reprit le jeune abbé en saluant avec toute la gravité du temps. Je cherchais l'occasion de vous appeler au nom de monsieur d'Attiqui, mon ami, avec qui vous eûtes quelque chose à Paris. Monsieur l'abbé, je suis à vos ordres, je vais chercher mes seconds, cherchez les vôtres. Ce sera à cheval, avec l'épée et le pistolet, n'est-il pas vrai ? Ajouta Gondy, avec le même air dont on arrangerait une partie de campagne, en époussetant la manche de sa soutane avec le doigt. « Si tel est votre bon plaisir, » reprit l'autre. Et ils se séparèrent pour un instant en se saluant avec grande politesse et de profonde révérence. Une foule brillante de jeunes gentilshommes passait et repassait autour d'eux dans la galerie. Ils s'y mêlèrent pour chercher leurs amis. Toute l'élégance des costumes du temps était déployée par la cour dans cette matinée. Les petits manteaux de toutes les couleurs, en velours ou en satin, brodés d'or ou d'argent, des croix de Saint-Michel et du Saint-Esprit, les fraises, les plumes nombreuses des chapeaux, les aiguillettes d'or, les chaînes qui suspendaient de longues épées, tout brillait, tout étincelait, moins encore que le feu des regards de cette jeunesse guerrière, que ses propos vifs, ses rires spirituels et éclatants. Au milieu de cette assemblée passaient lentement des personnages graves et de grands seigneurs, suivis de leurs nombreux gentilshommes. Le petit abbé de Gondy, qui avait la vue très basse, se promenait parmi la foule, fronçant les sourcils, fermant à demi les yeux pour mieux voir et relevant sa moustache, car les ecclésiastiques en portaient alors. Il regardait chacun sous le nez pour reconnaître ses amis et s'arrêta enfin à un jeune homme d'une fort grande taille, vêtu de noir de la tête aux pieds et dont l'épée même était d'acier bronzé fort noir. Il causait avec un capitaine des gardes lorsque l'abbé de Gondy le tira à part. « Monsieur de Thou, lui dit-il, j'aurai besoin de vous pour second dans une heure, à cheval, avec l'épée et le pistolet, si vous voulez me faire cet honneur. Monsieur, vous savez que je suis des vôtres tout à fait et à tout venant. Où nous trouverons-nous ? Devant le bastion espagnol, s'il vous plaît. Pardon si je retourne à une conversation qui m'intéressait beaucoup. Je serai exact au rendez-vous. » Et De Thoux le quitta pour retourner à son capitaine. Il avait dit tout ceci avec une voix fort douce, le plus inaltérable sang-froid et même quelque chose de distrait. Le petit abbé lui serra la main avec une vive satisfaction et continua sa recherche. Il ne lui fut pas si facile de conclure le marché avec les jeunes seigneurs auxquels il s'adressa, car il le connaissait mieux que M. De Thoux, et, du plus loin qu'il le voyait venir, il cherchait à l'éviter ou riait de lui-même avec lui et ne s'engageait point à le servir. « Hé, l'abbé, vous voilà encore à chercher ? Je gage que c'est un second qu'il vous faut, » dit le duc de Beaufort. « Et moi, je parie, » ajouta M. de la Rochefoucauld, « que c'est contre quelqu'un du cardinal-duc. » « Vous avez raison tous deux, messieurs, mais depuis quand riez-vous des affaires d'honneur ?»« Dieu m'en garde, » reprit M. de Beaufort. « Des hommes d'épée comme nous sommes vénèrent toujours tierces, quartes et octaves. Mais quant au pli de la soutane, je n'y connais rien. » « Parbleu, monsieur, vous savez bien qu'elle ne m'embarrasse pas le poignet et je le prouverai à qui voudra. Je ne cherche du reste qu'à jeter ce froc aux orties. » « C'est donc pour le déchirer que vous vous battez si souvent, » dit la Rochefoucauld. « Mais rappelez-vous, mon cher abbé, que vous êtes dessous. » Gondy tourna le dos en regardant à une pendule et ne voulant pas perdre plus de temps à de mauvaises plaisanteries. Mais il n'eut pas plus de succès ailleurs, car, ayant abordé deux gentilshommes de la jeune reine, qu'il supposait mécontents du cardinal et heureux par conséquent de se mesurer avec ses créatures, l'un lui dit fort gravement « Monsieur de Gondy, vous savez ce qui vient de se passer ? Le roi a dit tout haut, que notre impérieux cardinal le veuille ou non, la veuve de Henri le Grand ne restera pas plus longtemps exilée. » « Impérieux, monsieur l'abbé, sentez-vous cela ? Le roi n'avait encore rien dit d'aussi fort contre lui. Impérieux ! C'est une disgrâce complète. Vraiment, personne n'osera plus lui parler. Il va quitter la cour aujourd'hui, certainement. » « On m'a dit cela, monsieur, mais j'ai une affaire. C'est heureux pour vous qu'il arrêtait tout court dans votre carrière. » « Une affaire d'honneur ? Au lieu que Mazarin est pour vous. Mais voulez-vous ou non m'écouter ? Ah, s'il est pour vous, vos aventures ne peuvent lui sortir de la tête, votre beau duel avec M. de Coutenant et la jolie petite épinglière. Il en a même parlé au roi. Allons, adieu, cher abbé. Nous sommes fort pressés. Adieu, adieu. » Et reprenant le bras de son ami, le jeune persifleur, sans écouter un mot de plus, marcha vite dans la galerie et se perdit dans la multitude des passants. Le pauvre abbé restait donc fort mortifié de ne pouvoir trouver qu'un second et regardait tristement s'écouler l'heure et la foule lorsqu'il aperçut un jeune gentilhomme qui lui était inconnu, assis près d'une table et appuyé sur son coude d'un air mélancolique. Il portait des habits de deuil qui n'indiquaient aucun attachement particulier à une grande maison ou à un corps. Et, paraissant attendre sans impatience le moment d'entrer chez le roi, il regardait d'un air insouciant ceux qui l'entouraient et semblait ne les pas voir et n'en connaître aucun. Gondy, jetant les yeux sur lui, l'aborda sans hésiter. « Ma foi, monsieur, lui dit-il, je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais une partie d'escrime ne peut jamais déplaire à un homme comme il faut. » Et si vous voulez être mon second, dans un quart d'heure nous serons sur le pré. Je suis Paul de Gondy, et j'ai appelé M. Delaunay, qui est au cardinal, fort galant homme d'ailleurs. » L'inconnu, sans être étonné de cette apostrophe, lui répondit sans changer d'attitude. « Et quels sont ces seconds ? Ma foi, je n'en sais rien, mais que vous importe qui le servira ? On n'en est pas plus mal avec ses amis pour leur avoir donné un petit coup de pointe. » L'étranger sourit nonchalamment, resta un instant à passer sa main dans ses longs cheveux châtains et lui dit enfin avec indolence et regardant à une grosse montre ronde suspendue à sa ceinture. « « Au fait, monsieur, comme je n'ai rien de mieux à faire et que je n'ai pas d'amis ici, je vous suis. J'aime autant faire cela qu'autre chose. » Et prenant sur la table son large chapeau à plumes noires, il partit lentement, suivant le Martial abbé, qui allait vite devant lui et revenait le hâter, comme un enfant qui court devant son père, ou un jeune carlin qui va et revient 20 fois avant d'arriver au bout d'une allée. Cependant, 2 huissiers, vêtus des livrées royales, ouvrirent les grands rideaux qui séparaient la galerie de la tente du roi, et le silence s'établit partout. On commença à entrer successivement et avec lenteur dans la demeure passagère du prince. Il reçut avec grâce toute sa cour, et c'était lui-même qui, le premier, s'offrait à la vue de chaque personne introduite. Devant une très petite table, entourée de fauteuils dorés, était debout le roi Louis XIII, environné des grands officiers de la couronne. Son costume était fort élégant, une sorte de veste de couleur chamois, avec les manches ouvertes et ornées d'aiguillettes et de rubans bleus, le couvrait jusqu'à la ceinture. Un haut de chausse large et flottant ne lui tombait qu'aux genoux, et son étoffe jaune et rayée de rouge était ornée en bas de rubans bleus. Ses bottes à l'écuyère, ne s'élevant guère à plus de 3 pouces au-dessus de la cheville du pied, étaient doublées d'une telle profusion de dentelles et si larges qu'elles semblaient les porter comme un vase porte des fleurs. Un petit manteau de velours bleu, où la croix du Saint-Esprit était brodée, couvrait le bras gauche du roi, appuyé sur le pommeau de son épée. Il avait la tête découverte, et l'on voyait parfaitement sa figure pâle et noble, éclairée par le soleil que le haut de sa tente laissait pénétrer. La petite barbe pointue que l'on portait alors augmentait encore la maigreur de son visage, mais en accroissait aussi l'expression mélancolique. À son front élevé, à son profil antique, à son nez aquilin, on reconnaissait un prince de la grande race des Bourbons. Il avait tout de ses ancêtres, hormis la force du regard. Ses yeux semblaient rougis par les larmes et voilés par un sommeil perpétuel, et l'incertitude de sa vue lui donnait l'air un peu égaré. Il affecta en ce moment d'appeler autour de lui et d'écouter avec attention les plus grands ennemis du cardinal, qui l'attendaient à chaque minute, en se balançant un peu d'un pied sur l'autre, habitude héréditaire de sa famille. Il parlait avec assez de vitesse, mais s'interrompant pour faire un signe de tête gracieux ou un geste de la main à ceux qui passaient devant lui en le saluant profondément. Il y avait 2 heures, pour ainsi dire, que l'on passait devant le roi sans que le cardinal eût paru. Toute la cour était accumulée et serrée derrière le prince et dans les galeries tendues qui se prolongeaient derrière sa tente. Déjà, un intervalle de temps plus long commençait à séparer les noms des courtisans que l'on annonçait. « Ne verrons-nous pas notre cousin le cardinal ?» dit le roi en se retournant et regardant Montrésor, gentilhomme de monsieur, comme pour l'encourager à répondre. « Sire, on le croit fort malade en cet instant, » repartit celui-ci. « Et je ne vois pourtant que votre majesté qui puisse le guérir, » dit le duc de Beaufort. « Nous ne guérissons que les écrouelles, » dit le roi, « et les mots du cardinal sont toujours si mystérieux que nous avouons n'y rien connaître. » Le prince s'essayait ainsi de loin à braver son ministre, prenant des forces dans la plaisanterie pour rompre mieux son joug insupportable, mais si difficile à soulever. Il croyait presque y avoir réussi et, soutenu par l'air de joie de tout ce qui l'environnait, il s'applaudissait déjà intérieurement d'avoir su prendre l'empire suprême et jouissait en ce moment de toute la force qu'il se croyait. Un trouble involontaire au fond du cœur lui disait bien que, cette heure passée, tout le fardeau de l'État allait retomber sur lui seul. Mais il parlait pour s'étourdir sur cette pensée importune et, se dissimulant le sentiment intime qu'il avait de son impuissance à régner, il ne laissait plus flotter son imagination sur le résultat des entreprises, se contraignant ainsi lui-même à oublier les pénibles chemins qui peuvent y conduire. Des phrases rapides se succédaient sur ses lèvres. « Nous allons bientôt prendre Perpignan, » disait-il de loin à Faber. « Eh bien, cardinal, la Lorraine est à nous, » ajoutait-il pour la Valette. Puis touchant le bras de Mazarin. « Il n'est pas si difficile que l'on croit de mener tout un royaume, n'est-ce pas ?» L'Italien, qui n'avait pas autant de confiance que le commun des courtisans dans la disgrâce du cardinal, répondit sans se compromettre. « Ah, sire, les derniers succès de votre majesté, au-dedans et au-dehors, prouvent assez combien elle est habile à choisir ses instruments et à les diriger et... » Mais le duc de Beaufort, l'interrompant avec cette confiance, cette voix élevée et cet air qui lui méritèrent par la suite le surnom d'important, s'écria tout haut de sa tête. « Pardieu, sire, il ne faut que le vouloir. Une nation se mène comme un cheval avec l'éperon et la bride. Et comme nous sommes tous de bons cavaliers, on n'a qu'à prendre parmi nous tous. » Cette belle sortie du fat n'eut pas le temps de faire son effet, car deux huissiers à la fois crièrent « Son Éminence !» Le roi rougit involontairement, comme surpris en flagrant délit. Mais bientôt, se raffermissant, il prit un air de hauteur résolue qui n'échappa point au ministre. Celui-ci, revêtu de toute la pompe du costume de cardinal, appuyé sur deux jeunes pages et suivi de son capitaine des gardes et de plus de 500 gentilshommes attachés à sa maison, s'avança vers le roi lentement et, s'arrêtant à chaque pas, comme éprouvant des souffrances qu'il y forçait, mais en effet pour observer les physionomies qu'il avait en face. Un coup d'œil lui suffit. Sa suite resta à l'entrée de la tente royale et de tous ceux qui la remplissaient, pas un n'eut l'assurance de le saluer ou de jeter un regard sur lui. La Valette même feignait d'être fort occupée d'une conversation avec Montrésor. Et le roi, qui voulait le mal recevoir, affecta de le saluer légèrement et de continuer un aparté à voix basse avec le duc de Beaufort. Le cardinal fut donc forcé, après le premier salut, de s'arrêter et de passer du côté de la foule des courtisans, comme s'il eût voulu s'y confondre. Mais son dessein était de les éprouver de plus près. Ils reculèrent tous comme à l'aspect d'un lépreux. Le seul Faber s'avança vers lui avec l'air franc et brusque qui lui était habituel et, employant dans son langage les expressions de son métier, « Eh bien, monseigneur, vous faites une brèche au milieu d'eux comme un boulet de canon. Je vous en demande pardon pour eux. » « Et vous tenez ferme devant moi comme devant l'ennemi, » dit le cardinal-duc. « Vous n'en serez pas fâché par la suite, mon cher Faber. » Mazarin s'approcha aussi, mais avec précaution, du cardinal, et, donnant à ses traits mobiles l'expression d'une tristesse profonde, lui fit 5 ou 6 révérences fort basses et en tournant le dos au groupe du roi, de sorte que l'on pouvait les prendre de là pour ses saluts froids et précipités, que l'on fait à quelqu'un dont on veut se défaire, et du côté du duc pour des marques de respect, mais d'une discrète et silencieuse douleur. Le ministre, toujours calme, sourit avec dédain, et prenant ce regard fixe et cet air de grandeur qui paraissait en lui dans les dangers imminents, il s'appuya de nouveau sur ses pages et, sans attendre un mot ou un regard de son souverain, prit tout à coup son parti et marcha directement vers lui en traversant la tente dans toute sa longueur. Personne ne l'avait perdu de vue, tout en faisant paraître le contraire, et tout se tut, ceux mêmes qui parlaient au roi. Tous les courtisans se penchèrent en avant pour voir et écouter. Louis XIII, étonné, se retourna, et la présence d'esprit lui manquant totalement, il demeura immobile et attendit avec un regard glacé qui était sa seule force, force d'inertie très grande dans un prince. Le cardinal, arrivé près du monarque, ne s'inclina pas. Mais sans changer d'attitude, Les yeux baissés et les deux mains posées sur l'épaule des deux enfants à demi courbés, il dit « Sire, je viens supplier votre majesté de m'accorder enfin une retraite après laquelle je soupire depuis longtemps. Ma santé chancelle. Je sens que ma vie est bientôt achevée. L'éternité s'approche pour moi et, avant de rendre compte au roi éternel, je vais le faire au roi passager. Il y a 18 ans, sire, que vous m'avez remis entre les mains un royaume faible et divisé. Je vous le rends uni et puissant. Vos ennemis sont abattus et humiliés. Mon œuvre est accomplie. Je demande à votre majesté la permission de me retirer à Citeaux, où je suis abbé général, pour y finir mes jours dans la prière et la méditation. » Le roi, choqué de quelques expressions hautaines de ses paroles, ne donna aucun des signes de faiblesse qu'attendait le cardinal et qu'il lui avait vu toutes les fois qu'il l'avait menacé de quitter les affaires. Au contraire, se sentant observé par toute sa cour, il le regarda en roi et dit froidement « Nous vous remercions donc de vos services, monsieur le cardinal, et nous vous souhaitons le repos que vous demandez. » Richelieu fut ému au fond, mais d'un sentiment de colère qui ne laissa nulle trace sur ses traits. « Voilà bien cette froideur, se dit-il en lui-même, avec laquelle tu laissas mourir Montmorency. Mais tu ne m'échapperas pas ainsi. » Il reprit la parole en s'inclinant. « La seule récompense que je demande de mes services est que votre majesté daigne accepter de moi, en pur don, le palais cardinal, élevé de mes deniers dans Paris. » Le roi, étonné, fit un signe de tête consentant. Un murmure de surprise agita un moment la cour attentive. « Je me jette aussi aux pieds de votre majesté pour qu'elle veuille m'accorder la révocation d'une rigueur que j'ai provoquée, je l'avoue publiquement, et que je regardais peut-être trop à la hâte comme utile au repos de l'État. Oui, quand j'étais de ce monde, j'oubliais trop mes plus anciens sentiments de respect et d'attachement pour le bien général. À présent que je jouis déjà des lumières de la solitude, je vois que j'ai eu tort et je me repens. » L'attention redoubla et l'inquiétude du roi devint visible. « Oui, il est une personne, sire, que j'ai toujours aimée, malgré ses torts envers vous et l'éloignement que les affaires du royaume me forcèrent à lui montrer. Une personne à qui j'ai dû beaucoup et qui vous doit être chère, malgré ses entreprises à main armée contre vous-même. Une personne, enfin, que je vous supplie de rappeler de l'exil. Je veux dire, la reine Marie de Médicis, votre mère. » Le roi laissa échapper un cri involontaire, tant il était loin de s'attendre à ce nom. Une agitation tout à coup réprimée parut sur toutes les physionomies. On attendait en silence les paroles royales. Louis XIII regarda longtemps son vieux ministre sans parler, et ce regard décida du destin de la France. Il se rappela en un moment tous les services infatigables de Richelieu, son dévouement sans bornes, sa surprenante capacité, et s'étonna d'avoir voulu s'en séparer. Il se sentit profondément attendri à cette demande qui allait chercher sa colère au fond de son cœur pour l'en arracher et lui faisait tomber des mains la seule arme qu'il eut contre son ancien serviteur. L'amour filial amena le pardon sur ses lèvres et les larmes dans ses yeux. Heureux d'accorder ce qu'il désirait le plus au monde, il tendit la main au duc avec toute la noblesse et la bonté d'un Bourbon. Le cardinal s'inclina, la baisa avec respect, et son cœur, qui aurait dû se briser de repentir, ne se remplit que de la joie d'un orgueilleux triomphe. Le prince, touché, lui abandonnant sa main, se retourna avec grâce vers sa cour et dit d'une voix très émue : Nous nous trompons souvent, messieurs, et surtout pour connaître un aussi grand politique que celui-ci. Il ne nous quittera jamais, j'espère, puisqu'il a un cœur aussi bon que sa tête. Aussitôt, le cardinal de la Valette s'empara du bas du manteau du roi pour le baiser avec l'ardeur d'un amant, et le jeune Mazarin en fit presque autant au duc de Richelieu lui-même, prenant un visage rayonnant de joie et d'attendrissement avec l'admirable souplesse italienne. Deux flots d'adulateurs fondirent, l'un sur le roi, l'autre sur le ministre. Le premier groupe, non moins adroit que le second, quoique moins direct, n'adressait au prince que les remerciements que pouvait entendre le ministre et brûlait aux pieds de l'un l'encens qu'il destinait à l'autre. Pour Richelieu, tout en faisant un signe de tête à droite et donnant un sourire à gauche, il fit deux pas et se plaça debout à la droite du roi, comme à sa place naturelle. Un étranger, en entrant, eut plutôt pensé que le roi était à sa gauche. Le maréchal d'Étrée et tous les ambassadeurs, le duc d'Angoulême, le duc d'Halluin, Schomberg, le maréchal de Châtillon et tous les grands officiers de l'armée et de la couronne l'entouraient, et chacun d'eux attendait impatiemment que le compliment des autres fût achevé pour apporter le sien, craignant qu'on ne s'emparât du madrigal flatteur qu'il venait d'improviser ou de la formule d'adulation qu'il inventait. Pour Faber, il s'était retiré dans un coin de la tente et il ne semblait pas avoir fait grande attention à toute cette scène. Il causait avec Montrésor et les gentilshommes de monsieur, tous ennemis jurés du cardinal, parce que, hors de la foule qu'il fuyait, il n'avait trouvé qu'eux à qui parler. Cette conduite eût été d'une extrême maladresse dans tout autre moins connu. Mais on sait que, tout en vivant au milieu de la cour, il ignorait toujours ses intrigues. Et on disait qu'il revenait d'une bataille gagnée comme le cheval du roi à la chasse, laissant les chiens caresser leur maître et se partager la curée, sans chercher à rappeler la part qu'il avait eue au triomphe. L'orage semblait donc entièrement apaisé, et aux agitations violentes de la matinée succédait un calme fort doux. Un murmure respectueux, interrompu par des rires agréables, et l'éclat des protestations d'attachement, était tout ce qu'on entendait dans l'attente. La voix du cardinal s'élevait de temps à autre pour s'écrier « Cette pauvre reine, nous allons donc la revoir ? Je n'aurais jamais osé espérer ce bonheur avant de mourir. » Le roi l'écoutait avec confiance et ne cherchait pas à cacher sa satisfaction. « C'est vraiment une idée qui lui est venue d'en haut, » disait-il. « Ce bon cardinal, contre lequel on m'avait tant fâché, ne songeait qu'à l'union de ma famille. Depuis la naissance du dauphin, je n'ai pas goûté de plus vive satisfaction qu'en ce moment. La protection de la Sainte Vierge est visible pour tout le royaume. » En ce moment, un capitaine des gardes vint parler à l'oreille du prince. « Un courrier de Cologne, » dit le roi, « qu'il m'attende dans mon cabinet. » Puis, n'y tenant pas, « j'y vais, » dit-il. Et il entra seul dans une petite tente carrée attenante à la grande. On y vit un jeune courrier tenant un portefeuille noir, et les rideaux s'abaissèrent sur le roi. Le cardinal, resté seul maître de la cour, se concentrait toutes les adorations. Mais on s'aperçut qu'il ne les recevait plus avec la même présence d'esprit. Il demanda plusieurs fois quelle heure il était et témoigna un trouble qui n'était pas joué. Ses regards durs et inquiets se tournaient vers le cabinet. Il s'ouvrit tout à coup. Le roi reparut seul et s'arrêta à l'entrée. Il était plus pâle qu'à l'ordinaire et tremblait de tout son corps. Il tenait à la main une large lettre couverte de 5 cachets noirs. « Messieurs, dit-il avec une voix haute mais entrecoupée, la reine-mère vient de mourir à Cologne et je n'ai peut-être pas été le premier à l'apprendre. » ajouta-t-il en jetant un regard sévère sur le cardinal impassible. Mais Dieu sait tout. Dans une heure, à cheval, et l'attaque des lignes, messieurs les maréchaux, suivez-moi. Et il tourna le dos brusquement et rentra dans son cabinet avec eux. La cour se retira après le ministre, qui, sans donner un signe de tristesse ou de dépit, sortit aussi gravement qu'il était entré, mais en vainqueur.